Bonjour, bienvenue au deuxième podcast de Femmes en affaires. Moi, c'est Sandrine.
Et moi, c'est Lia.
Et nous sommes deux étudiantes de HEC Montréal. Dans cet épisode, nous avons eu la chance de discuter avec Sarah Mottet.
Son parcours professionnel a débuté très tôt, puisqu'à 17 ans, elle gérait déjà 60 employés au club de soccer de Longueuil. Elle a ensuite fait ses études à l'Université de Montréal en communication. Puis, elle s'est dirigée vers le groupe Parc Avenue, leader du commerce automobile au Québec, pour débuter sa carrière. Elle y a notamment développé la boutique Station Service, qui propose des essais routiers en réalité virtuelle.
Aujourd'hui, à 23 ans, Sarah est à la tête du département de marketing chez Léger. Cette entreprise est la plus grande firme de sondage, de recherche marketing et analytique canadienne, avec plus de 600 employés en Amérique du Nord. Ils réalisent des études concernant la culture et les tendances des marchés, et ont même prédit à 1% près les résultats du vote aux dernières élections fédérales canadiennes.
Sarah est également actrice et collaboratrice à l'émission Halte, qui fait une revue humoristique de l'actualité à chaque semaine. On vous laisse donc écouter la conversation qu'on a eue avec elle et on espère que vous allez apprécier.
Ben alors, bonjour Sarah, merci beaucoup d'être venue pour discuter avec nous. On voulait commencer un peu pour que tu nous parles de ton parcours. On a vu que tu as fait l'école à la maison jusqu'à 15 ans. Ça nous a vraiment intéressés. On voulait savoir si tu pouvais nous en parler un petit peu, puis si tu penses que ça a eu un impact sur ta confiance en toi, sur ton autonomie, ta créativité.
Ben oui, certainement. C'est sûr que c'est un parcours qui est différent que d'aller à l'école. Moi, je l'ai fait jusqu'en secondaire 3, fait que je suis allée à l'école, à la vraie école, entre parenthèses, au primaire, puis finalement, je suis retournée faire l'école à la maison parce que j'étais tannée de la vraie école. C'est sûr que c'est différent majoritairement parce que tu es toute seule. Moi, dans mon cas, c'est ma mère qui m'enseignait. Fait que j'étais vraiment toute seule avec elle. Fait que t'as un prof pour toi toute seule qui prend juste soin de toi, qui répond à tes questions quand tu veux. Donc, tu fonctionnes évidemment à ta vitesse, à toi. Fait que je dirais qu'en arrivant à l'école, c'est ça qui m'a vraiment choquée un peu, d'avoir comme 20 autres personnes, même 30 autres personnes hein, parfois, autour de toi qui posent des questions que toi, t'as pas vraiment besoin des fois de poser, qui vont pas dans la même direction que toi, qui vont pas aussi rapidement que toi. Fait que je te dirais que ça m'a peut-être rendue un peu impatiente, mais au-delà de ça, moi, l'école à la maison, c'est comme la plus belle expérience que j'ai pu avoir dans ma jeunesse. C'est vraiment quelque chose de formateur. J'ai pu faire des projets que je pense que j'aurais jamais pu faire, encore une fois, si j'avais été à la vraie école. Ça m'a vraiment permis d'aller plus vite que, à la vitesse que moi, je voulais aller, d'explorer des nouveaux horizons, de faire des gros projets, finalement, où est-ce que... Parfois, à l'école, on n'a pas le temps de le faire parce qu'il y a plus d'élèves dans une classe. Fait que vraiment, c'est une très bonne expérience. Je remercie beaucoup mes parents de m'avoir enseignée à la maison puis d'avoir dévoué leur temps à ça. Puis malgré tout, j'ai beaucoup aimé aussi retourner à l'école à la fin pour pouvoir plus socialiser quand même.
Mais est-ce que tu penses que ça a eu un impact sur comment tu travailles aujourd'hui?
Oui.
Parce que des fois, justement, comme le rapport à l'autorité, vu que t'as pas nécessairement eu comme justement à suivre des règles où c'est plus moins encadré, ben là, quand t'arrives peut-être dans un milieu de travail, tu réagis différemment.
Oui. Ben, je vais quand même contredire du fait que c'est vrai que c'était pas encadré. Non, mais parce que je pense que c'est un peu un préjugé que les gens ont envers l'école à la maison. Puis en même temps, il y a de toutes les situations possibles. Moi, j'étais dans un cadre qui était cadré. Donc, c'est ça, j'avais pas non plus la flexibilité de, par exemple, regarder la télé sur les heures d'école. Fait que je pense que j'avais quand même une certaine discipline puis un certain rapport à l'autorité. C'est sûr que c'est différent quand c'est tes parents, par exemple, que quand c'est des professeurs. Ça, je l'avoue totalement. Je pense que ça m'a quand même formée comme étant quelqu'un de peut-être un peu individualiste puis que de travailler en équipe parfois... pas que je trouve ça difficile, mais ça peut être un défi pour moi de travailler dans des équipes qui vont pas des fois à la même vitesse que moi j'aimerais aller, qui ont encore une fois, c'est le même pattern que l'école finalement, qui ont pas les mêmes questions que j'ai finalement, qui ont pas les mêmes questionnements que moi. Fait que je pense que c'est peut-être là-dessus où est-ce que ça joue beaucoup. Mais bon, comme j'ai pas juste fait l'école à la maison puis que j'ai été dans plein de situations sociales différentes, j'ai quand même appris à travailler en équipe. Mais ça peut être quelque chose sur quoi ça a joué, effectivement. Ouais.
Mais tu as pu t'adapter quand tu es arrivée sur le marché du travail.
Oui, exactement. Oui.
Et j'imagine que l'Université de Montréal, ça t'a bien aidé. Je me souviens, dans les cours, on avait beaucoup de travaux d'équipe.
Oui.
J'imagine que ça a dû aider aussi développer ça.
Oui, oui. Puis, tu sais, c'est drôle. Moi, l'université, j'ai trouvé ça difficile. Je pense que j'avais un quand même bon taux d'absentéisme du fait que, tu sais, un peu le même pattern, c'est des grandes classes, c'est très théorique. Moi, je suis quelqu'un d'hyper pratique. J'aime beaucoup faire les choses, vivre les choses, faire des expériences, pratiquer. Et surtout dans le programme que j'étais, bon, on était dans le même programme, c'était très théorique, puis moi, ça me rejoignait moins, ce qui fait que comme je décrochais un petit peu finalement, là.
Puis on sait aussi que tu as été, ben tu l'es encore, actrice.
Oui.
Est-ce que tu penses que ça a eu des répercussions justement sur peut-être tes capacités de communication puis que ça t'a aidé à peut-être monter les échelons plus rapidement?
Bien certainement. C'est sûr qu'au niveau de la communication, tu sais, être à la télé, que ce soit en tant que comédienne ou animatrice, ça permet de parler, ça permet de verbaliser, d'avoir du vocabulaire, d'interagir, d'être à l'écoute. Fait que c'est sûr que travailler en communication puis en gestion, ben ça, tout se lie, là. Tout est ensemble, tout va ensemble. Puis donc oui, c'est sûr que ça a un effet positif. L'autre effet que ça a eu, je pense, c'est que moi, j'ai quand même commencé assez tôt, vers 15 ans, 16 ans, les premiers plateaux de télévision. C'est quand même un milieu d'adulte, donc t'es traité comme une adulte. Donc malgré que, bon, j'étais dans la mi-adolescence, mais ça m'a quand même permis d'avoir une autre expérience de travail qui est différente, avec des heures de travail qui sont différentes, où est-ce que t'as juste toi, finalement, sur lequel reposer. Fait que ça a été une expérience qui m'a beaucoup fait grandir aussi, là, et qui me fait encore grandir aujourd'hui.
C'est vraiment super intéressant.
Oui. Puis peut-être là, pour commencer plus dans ton parcours professionnel, tu as commencé comme à être stagiaire chez Group Park Avenue. Mm-hmm. Je sais pas si tu peux expliquer un peu aux auditeurs c'est quoi exactement ce groupe-là.
Oui, donc Group Park Avenue, c'est un consortium de concessionnaires automobiles qui est assez gros au Québec. Là. C'est l'un des plus gros, ils sont encore en acquisition, je pense. Moi, j'ai commencé comme stagiaire aux événements et aux communications. Puis après ça, j'ai été chargée de projet. Puis par la suite, ben, j'ai changé d'emploi. Mais oui, j'ai commencé là comme... En fait, j'ai été même responsable, je pense. En tout cas, je me souviens plus. Mais j'ai resté là, je pense, 3 ans. Mais j'ai fait comme 3 postes stagiaire, responsable, puis des événements, des coms et chargée de projet. Oui, voilà. Donc, je travaillais aux communications là-bas. Mais évidemment, c'est un monde de voitures, c'est un monde de concessionnaires. Ouais.
Ben, justement, on se demandait par rapport à ça. On a vu aussi qu'avant, tu travaillais dans un club de soccer.
Oui!
Ça a été beaucoup dans des groupes qu'on... stéréotype un peu genré masculin.
Ouais.
Est-ce que ça a eu un impact? Est-ce que tu as senti que ça a eu des répercussions un peu sur ton avancement là-dedans? Comment tu te sentais dans le milieu en général?
Bien, c'est une bonne question. T'sais, c'est sûr que le milieu automobile, c'est un milieu d'hommes à la base. Là. Mm-hmm. Moi, je faisais quand même partie d'une équipe marketing qui était féminine. Mm-hmm. Donc, j'avais deux patronnes en haut de moi qui étaient des femmes. Puis, je tiens à dire justement que ces femmes-là m'ont beaucoup aidée, m'ont beaucoup aiguillée. Moi, c'est vraiment des repères pour moi aujourd'hui. On parlait juste plus tôt là, qu'on cherchait souvent des repères dans le milieu du travail au féminin. Puis, c'est pas obligé d'être des dragons, effectivement, ou des grands entrepreneurs. Des fois, c'est juste des gestionnaires qu'on a autour de nous. Moi, ça a vraiment été le cas pour ça. Je dirais qu'on m'a vraiment laissé beaucoup de flexibilité, moi, où j'étais. Puis j'ai vraiment eu des bons mentors féminins, autant féminins que masculins, mais vraiment plus féminins. Ce qui fait que j'ai pas ressenti nécessairement la grosse pression masculine. Mais c'est sûr que c'est un milieu masculin, puis c'est sûr que ça se fait sentir quelquefois. Mais il s'agit de faire sa place, je pense, puis de rétablir un peu la balance là-dessus. Je dirais pas que j'ai pas eu d'expérience négative à l'intérieur de l'entreprise. Je pense que j'en ai déjà vécu par rapport à des fournisseurs dans le milieu de l'automobile ou autre, là, peu importe, dans les expériences de travail. Mais j'ai quand même été chanceuse où est-ce que j'ai pas senti de discrimination vis-à-vis mon genre dans les milieux où je travaillais, là.
Puis, si tu veux aussi peut-être nous parler justement de la gestion de personnel que tu avais faite au club de soccer.
Oui.
Puis, comment peut-être que tu t'étais rendue là? C'était une première expérience assez importante.
Ouais. Assez costaud, oui. Ouais. Moi, j'ai toujours joué au soccer depuis que je suis jeune. Je jouais compétitif, j'ai été arbitre de soccer, j'ai entraîné des jeunes. Fait que j'étais vraiment, vraiment dans ce milieu-là. J'ai été monitrice de camp de jour, bref. On m'a offert un poste, je pense que ça s'appelait coordonnatrice des programmes, quelque chose comme ça. Puis, c'était quand même une... une job assez ardue là, du fait que je gérais autant les équipes du camp de jour que les équipes du soir où est-ce que là, il y avait vraiment des entraînements aux jeunes. Donc, il y avait comme à peu près 1000 clients, tu sais, 1000 familles qu'il faut gérer ces comptes-là un peu clients. Là. Je les appelle comme ça aujourd'hui parce que maintenant, c'est des comptes clients. Gérer le personnel qui avait mon âge. Je pense que ça a été vraiment une tâche qui était ardue aussi parce que gérer des gens de ton âge à 18 ans qui sont tes amis aussi avec lesquels tu as grandi, c'est beaucoup, beaucoup de travail sur soi, beaucoup d'apprentissage. C'est difficile de gérer des gens que tu connais très bien dans les moments les plus difficiles. Oui, ça m'a vraiment beaucoup appris.
Est-ce que tu penses que par rapport à ça, ça t'a fait un genre de syndrome de l'imposteur? Parce que c'est un peu un questionnement qu'on a en ce moment, plus en général, là, surtout quand on est avec des gens de notre âge, savoir ce rapport d'autorité-là, il est difficile à établir quand justement on a le même âge, on vient du même milieu, c'est vraiment difficile.
C'est vraiment difficile. Tu sais, moi, je le vis encore aujourd'hui. Moi, j'ai une équipe en ce moment, puis ils ont à peu près mon âge ou sont même un peu plus vieilles que moi dans mon équipe, puis c'est une question que je me pose, tu sais, à tous les jours, je veux pas, que ce soit par rapport à mon équipe, que ce soit par rapport avec les gens avec qui est-ce que je travaille. Je pense que c'est vraiment de l'apprentissage. Dans mon cas, comme ayant l'âge que j'ai, je suis en train d'apprendre à gérer ça, à gérer les gens en même temps et à apprendre mon rôle de gestionnaire aussi. Je pense que c'est une question beaucoup de respect, d'écoute, de flexibilité. Moi, je suis pas dans la réprimande puis dans être stricte. Je veux vraiment avoir une ouverture du positivisme parce que c'est toujours comme ça qu'on m'a traité. Fait que c'est comme ça que je veux redonner aussi. Tu sais, je parlais de des gestionnaires que j'ai eu féminines avant. Moi, c'est toujours comme ça qu'on m'a un peu appris. Fait que c'est un peu ça que je veux redonner. Mais effectivement, c'est difficile. Il y a beaucoup de limites qu'on connaît pas. Puis c'est un peu de découvrir ces limites-là au jour le jour. Ça dépend des gens avec qui tu travailles. Des fois, il y a des gens plus faciles. Des fois, il y a des gens moins faciles.
Mais... On en revient au travail d'équipe.
Oui. Mais est-ce que tu aurais peut-être un conseil pour justement des jeunes femmes qui deviennent gestionnaires de comment instaurer sa crédibilité puis veut pas son autorité, même si t'es pas une gestionnaire autoritaire, mais à un moment donné, il faut quand même établir un peu une autorité.
Bien, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. T'sais, moi, j'y vais vraiment dans la confiance puis l'assurance, puis je me dis qu'il y a des raisons pourquoi est-ce que je suis là, puis qu'il faut que j'aie confiance en moi, puis qu'il faut pas que je me questionne, parce que je pense que les autres se questionnent de pourquoi je suis là, tu sais. Souvent, j'essaie de beaucoup, beaucoup me préparer. Je pense que c'est vraiment ça, mon arme, d'être vraiment prête, de vraiment savoir de quoi est-ce que je parle. Puis je pense que c'est typiquement féminin aussi de ça, se préparer over and over, là. Mais comme ça, je me sens vraiment sûre de moi-même, puis bien assise dans mes souliers, tu sais. Puis je pense que moi, j'ai aussi un caractère qui fait que j'ai pas peur de prendre la parole, j'ai pas peur de m'exprimer. Je pense pas que c'est le cas pour tout le monde, mais je pense que pour moi, c'est mon arme, du moins, de pas avoir peur de m'exprimer autour d'une table juste d'hommes ou tu sais, juste d'hommes et femmes, peu importe. C'est de prendre sa place, finalement.
C'est vraiment intéressant parce que ça revient un peu à ce qu'on disait avec Marie-Pierre le mois dernier par rapport à ça, justement, au fait que...
On se prépare beaucoup.
En tant que femme. Après, c'est ça. Souvent, on se demande si c'est une qualité ou pas, mais au final, j'ai l'impression que ça marche vraiment.
Je pense que c'est comme le seul moyen qu'on trouve, je pense, ou du moins, c'est un des moyens qui nous rassure. Mm-hmm. Parce que je pense qu'on doute souvent, tu sais, de nous puis de notre place, puis je pense qu'il faut pas, parce que justement, on serait pas où est-ce qu'on est... si on méritait pas d'être là.
C'est vrai.
Puis il y a bien du monde aussi qui sont là, puis des fois qui le méritent pas, puis qui se préparent pas, mais nous, au moins, on se donne, tu sais, la chance de se préparer, là.
Exact. Je suis vraiment d'accord. C'est un beau conseil.
Oui.
Mais peut-être qu'on peut aller plus vers maintenant ton expérience chez Léger.
Mm-hmm.
Fait que justement, comment t'es arrivée à diriger le département de marketing? Puis peut-être nous expliquer un peu ton day-to-day. Qu'est-ce que tu fais en tant que directrice du département?
Mm-hmm. Bien, en fait, moi, j'ai commencé chez Léger. Je quittais le groupe Parc Avenue. Je voulais plus nécessairement travailler dans le milieu de l'automobile parce qu'à long terme, je voyais pas comment ça pouvait rejoindre mes intérêts personnels. Puis Léger, je trouvais que c'était vraiment un bel entre-deux. Souvent, en communication, on a comme le choix entre l'entreprise ou l'agence. Puis je trouvais que c'était vraiment un bel entre-deux parce que j'allais dans le département de marketing interne, mais en agissant à titre d'agence, autant pour nos clients que pour les clients internes, donc les employés, la direction, etc. Fait que c'est parti de loin. Moi, quand je suis arrivée chez Léger, il n'y avait pas de département. Fait
oui, c'est
avait...
ça, tu l'as fondé.
Exactement. Fait qu'il y avait comme juste le... une personne au com, tu sais, qui faisait un peu de tout, là, des com internes, un peu de médias sociaux, un peu de tout vraiment. Alors, moi, je suis arrivée comme cordeau marketing là-bas. Puis rapidement, le département a monté. Là, on est passé de une personne. Aujourd'hui, on est 4 personnes dans mon équipe, plus une personne aux communications internes. Fait que vraiment, en 2 ans, là, ça fait exactement 2 ans, en fait, il y a quelques semaines que je suis là. Je suis arrivée en octobre 2017. On est vraiment passé de presque rien à vraiment un département qui est fonctionnel, qui travaille avec tous nos bureaux au travers de l'Amérique du Nord. Fait que moi, je suis vraiment, vraiment fière de ça parce que c'est fou, Léger, qu'il y a quand même une notoriété de feu oui. au Québec.
Mm-hmm, vraiment.
Vraiment, tout le monde connaît l'entreprise exactement. N'avait pas nécessairement de ressources de communication externe, mais reposait plus sur de la visibilité média, des RP. Mais il n'y avait rien d'autre que ça. Fait qu'on a vraiment monté une image de marque qui est, à mon sens, du moins, beaucoup plus forte puis qui est vraiment plus en ligne avec qu'est-ce qu'il y avait il y a quelques années, finalement. Puis pour parler du day-to-day, bien évidemment, ça ne se ressemble pas. Aucun jour n'est pareil, mais c'est ça qui est le fun, c'est qu'on nous donne beaucoup, beaucoup de flexibilité, justement, vu que le département n'existait pas. Bien, on se forme un peu nos propres tâches. Évidemment, il y a du travail qui arrive qui est inévitable, mais on est capable de développer du travail qu'on a envie de faire aussi pour la marque. Puis ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Dernièrement, on a réalisé un projet. En fait, on a lancé une application mobile qui s'appelle Léo.
Oui.
Je vous invite à aller la télécharger d'ailleurs.
On l'a vu.
Donc, on a dû monter une campagne publicitaire de A à Z. Et chez Léger, il faut savoir qu'on travaille sans agence. Donc, tout est fait vraiment à l'interne. Donc, de A à Z, autant des idées, du graphisme, du plan média, de la coordination avec tous les fournisseurs. On y est vraiment passé comme une vraie agence. Alors, c'est un projet que je pensais jamais faire si j'étais pas en agence, justement. Ça nous a permis de faire ça, puis c'est une belle flexibilité, je trouve, qu'on a. Donc, les journées ne se ressemblent jamais. Et l'autre avantage, je trouve, de travailler chez Léger, c'est que comme on a des bureaux partout en Amérique du Nord, on touche à toutes les cultures, de toutes les manières, de toutes les langues, de tous les côtés de la médaille. Étant en recherche, on a autant des clients en consommation qu'en affaires publiques. Fait que vraiment, on a une diversité de projets qui est vraiment impressionnante puis très intéressante.
Puis toi, ta mission, quand tu es arrivée dans ce poste-là, c'était de développer... plus l'image de marque
ouais.
de Léger.
Parce... c'est d'avoir quelque chose de plus fort, de okay. avoir une ligne directrice, à quoi les gens pouvaient se rattacher. Je pense que il y en avait une, mais tout le monde travaillait peut-être un peu dans son coin à ce niveau-là, vu qu'il n'y avait personne qui avait pris en charge nécessairement cette image-là.
Peut-être que vous aviez la publicité par rapport, tu sais, on sait, mettons, la presse, oui. les sondages, c'était ça. Plus eux qui faisaient votre publicité.
Exactement, okay. c'est ça. Tout le monde connaît Léger parce que les sondages politiques, mais tu sais, oui. les sondages politiques, c'est vraiment pas juste ça qu'on fait, c'est vraiment minime par rapport à la visibilité qu'on a, oui. mais c'était aussi de faire découvrir ça. T'sais, je pense qu'on associe beaucoup justement les gens à une certaine catégorie de travail, très recherche, alors qu'on travaille avec plein de clients différents, on fait plein de mandats différents, que ce soit de la recherche, que ce soit de l'évaluation de campagne, que ce soit de la stratégie. Fait que vraiment, on fait du 360. Hein? Il fallait le prouver. Fait que c'était vraiment ça la mission dès le départ, d'instaurer une structure.
C'est vraiment intéressant. Je pense qu'en plus, c'est une problématique qu'on retrouve pas mal dans les entreprises de ce milieu-là, j'ai l'impression. Le cordonnier mal chaussé.
Ouais.
J'ai l'impression qu'ils ont fait beaucoup de projets pour les jeunes, comme l'indice du bonheur, mm-hmm. Les études sur les jeunes, puis là, Léo qui
ouais.
vise...
un public, ouais, public. Ouais, ben, qui est de tout le monde, finalement, mais qui ouais. se mm-hmm. voulait du moins revamper. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses. Chez Léger, c'est vraiment des self-made, là, comme tout est fait à l'interne. On a vraiment des gens extraordinaires, très, très forts. Puis là, c'était comme d'actualiser ces technologies-là qu'on a faites, qu'on a montées, d'arriver avec des nouvelles études, comme l'étude jeunesse qu'on fait avec InfoPresse, par exemple, avec l'indice de bonheur. C'est vraiment des nouveaux outils qui sont au goût du jour. Puis ça, c'est vraiment agréable. Et ça revampe l'image de la recherche. Parce que souvent, on a une image qui est un petit peu terne, vieille mm-hmm. de la recherche. Puis, et je comprends. En fait, je comprends. Puis c'est ça notre travail aussi, d'amener ça à un autre niveau. Puis de faire, ben non, on a des technologies, on a du real time, on est là, tu sais. C'est nous qui avons la donnée. C'est ça qui est le plus important et le plus intéressant aujourd'hui, la donnée. Puis c'est nous qui l'avons. Fait qu'il faut la faire valoir. Là.
Oui, c'est vraiment intéressant. Mais c'est motivant aussi pour toi.
Oui, vraiment.
Qu'ils prennent justement d'autres avenues.
Oui, puis qu'il y a vraiment, on voit qu'il y a une ampleur, tu sais, il y a vraiment beaucoup d'avenues finalement.
Good.
Puis il y a un thème aussi qu'on voulait beaucoup discuter avec toi, c'est le thème de l'ambition.
Mm-hmm.
Parce que des fois, c'est peut-être difficile quand on est plus jeune de savoir qu'est-ce qu'on veut faire, puis où on se voit, puis tu sais, un peu comment avoir de l'ambition. Fait que nous, on se demandait, est-ce que chez toi, c'était quelque chose qui était inné ou que tu as pu développer ou peut-être que c'était comme dans ta famille, des valeurs qu'on t'a inculquées?
Je pense que ça a toujours fait partie de moi. Je pense que j'ai toujours voulu faire plus. Puis j'ai toujours voulu comme être la première à le faire. J'aime ça pouvoir essayer des choses pour la première fois puis être fière de le faire. Moi, je pense que ça part vraiment de ma famille. Ma mère est vraiment comme ça. T'sais, ma mère est ingénieure puis elle était à Polytechnique dans le temps où est-ce qu'il y avait majoritairement des hommes. Ça part de ça aussi. Ma mère, c'est vraiment une travaillante. Elle faisait sa maîtrise pendant qu'elle avait des enfants, des jeunes enfants, puis elle avait comme 4.3 de GPA, comme c'est impossible, c'est comme, puis même elle était pas satisfaite de ça, fait que je pense que je retiens vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de ma mère là-dessus, puis je pense que l'ambition, faut faire attention quand même. Moi, je me fais vraiment un devoir de parler le plus possible de santé mentale avec l'ambition parce que des fois, ça peut devenir démesuré. Puis chez moi, c'est devenu démesuré. À un moment donné, on ne voit plus le bout. Puis je pense que surtout, en plus, dans un milieu en communication, en marketing, où est-ce que ça se parle beaucoup, où est-ce que si tu n'es pas dans les médias, si c'est pas visible, ben, c'est comme si tu ne faisais rien. Un peu comme ça, c'est comme ça aussi un peu à la télévision. Hein. Si tu n'es pas à la télé, ben, c'est comme si tu ne travaillais pas, alors que ben, non, c'est pas ça la réalité. C'est comme un milieu où est-ce qu'il faut beaucoup se prouver puis constamment se renouveler. Puis ça met beaucoup de pression, je pense, pour faire attention à doser ça, justement. À doser le désir d'ambition, mais une certaine stabilité aussi, puis pas se rendre malade, finalement, pour tout ça.
Et est-ce que tu penses que c'est aussi le fait que tu sois une femme qui a joué là-dedans? Parce que tu parles de ta mère et du fait qu'elle était dans un environnement surtout masculin. Est-ce que tu penses que ça a participé justement à ça? Le fait que tu étais une femme et que tu as envie de prouver que tu pouvais le faire avant les autres et que tu pouvais changer les choses peut-être. À ta façon?
Peut-être, mais tu sais, on revient un peu au fait de comme trop se préparer, trop en faire. Vraiment. Moi, je dis jamais que je suis perfectionniste parce que j'aime pas ça travailler jusque dans le dernier détail, des fois, qui est inutile. C'est là où mon côté impatiente arrive. Mais j'aime ça bien faire les choses. C'est vraiment important pour moi. J'aime ça que les choses soient bien faites dans un certain ordre puis de m'assurer que, justement, tout est bien rendu. Fait que c'est peut-être un trait de caractère un peu féminin, tu sais, c'est ça, j'aime bien que ça soit bien rendu puis j'aime ça bien être préparée puis bien connaître mes choses puis être stable là-dedans.
C'est vraiment positif, je pense.
Ouais.
Moi, j'aimerais peut-être revenir te parler de l'équilibre, justement, de l'ambition puis de la stabilité mentale.
Oui.
Mais est-ce que comment tu as pu gérer ça, toi, justement, cet équilibre-là? Parce qu'on sait que, tu sais, souvent, les jeunes, ils ont beaucoup d'anxiété de performance.
Ouais.
De plus en plus popularisé chez les étudiants. Puis même nous, dans notre entourage, on le voit. Fait que je sais pas si... Mm. Comment tu as un peu géré ça?
Ben tu sais, je pense que je le gère à tous les jours. Je pense pas que je l'ai géré. Tu sais, je pense pas qu'il est au passé.
Ouais.
Ça sera jamais au passé. Moi, je suis quelqu'un d'hyper anxieuse. Tu sais, puis je m'en cache pas, là. Je fais full d'anxiété. Puis c'est un combat à tous les jours, là, justement, combattre cette anxiété-là. Je pense qu'il faut comme la réaliser premièrement, puis trouver les mécanismes. Qu'est-ce qui la déclenche, pourquoi, puis trouver des mécanismes de combat, justement. Et moi, je sais que je suis super anxieuse quand je suis fatiguée. C'est impossible. Fait qu'il faut que je dorme. T'sais, c'est con comme ça, mais il faut que je sois bien reposée pour être là parce que dans ma journée, je vais être là à 110 %. Justement, je veux vraiment me donner. Puis je sais que si je suis en dessous de mon 110 %, ça va être en deçà de mes propres ententes. Ça va me causer de l'anxiété.
Ouais, c'est ça,
puis là, c'est comme... C'est ça, la roue finit plus. Fait que tu sais, moi, j'ai identifié que c'était ça. Tu sais, je pense qu'on est tous un peu le gros stéréotype de notre génération qui est hyper performante, mais hyper anxieuse aussi. Mais faut pas oublier qu'elle est aussi hyper performante puis être hyper intelligente. Puis que, je reviens un peu tantôt, mais la stabilité puis l'équilibre, c'est quand même la clé dans la performance.
Ouais.
C'est pas vrai que tu vas être performant si t'es pas dans un équilibre, si t'es pas stable. Puis c'est la même chose pour moi. Si je dors pas puis que je fais juste travailler 24 heures par jour, je serai pas plus performante en ligne, je vais crasher, tu sais. Puis je le sais. Puis moi, j'ai déjà livré un gros projet en année qui fait qu'après, j'étais à terre, là. Je pensais que je faisais un burn-out. J'étais fatiguée comme jamais. Puis il a fallu que je m'écoute puis que je prenne une pause, tu sais. Je pense qu'il faut vraiment trouver son train de vie personnel. Il faut tester des fois ses limites pour savoir ça c'est trop, ça c'est pas assez. Ouais. Mais tu sais, moi je l'apprends encore à tous les jours, puis à tous les jours je me bute à des moments où est-ce que je me dis là j'aurais peut-être dû prendre une pause, tu sais, parce que c'est facile, justement le train va tellement vite,
c'est ça, des facile. Fois ça arrive sans qu'on le sache, tu sais, oui. On est tellement ouais. dans le projet, on continue ouais. Puis là c'est quand c'est terminé, on est comme ouf, je suis vidée là.
Ouais, c'était trop, exactement, ouais.
Et est-ce que par rapport à ça, tu as dû faire justement des sacrifices pour te rendre là où...
C'est comme une drôle de question. Des fois, on me pose ça, puis je suis comme... Je pense que je suis trop jeune pour avoir fait des sacrifices. Ouais. Genre, tu sais, j'ai pas de famille, dans le sens que j'ai pas d'enfant. Tu sais, je pense pas que j'ai fait des sacrifices. Je trouve que ouais. c'est comme un gros mot. Je pense que c'est plus des prises de décision de faire ça au lieu de ça.
Mais je pense que c'est comme ça que toi, ouais. tu vois ça, puis c'est oui, bien parce qu'il y en a qui pourraient dire « Ah, oh, ben moi, j'ai pas...
Je suis pas sortie avec mes amis tous les soirs.
J'ai pas de voyage. » Ouais, exact. Mais tu sais, là, je suis dans un moment de ma vie où je me dis « Mon Dieu, je suis comme trop dans comme une genre de petite vie 9 à 5. » qui est pas 9 à 5, mais je veux dire qui est comme dans un train de vie où est-ce que je sors pas de mes habitudes. Puis ça me fait peur, puis là, je veux sortir de mes habitudes, puis j'essaie de me sortir justement de ma boîte, parce que malgré qu'on fasse pas les mêmes choses à tous les jours, puis que ça bouge beaucoup, là, je me trouve comme dans un carcan où je suis comme, bon, qu'est-ce que je fais?
Parce que t'es déjà bien établi pour quelqu'un de ton âge,
exactement, mettons, exactement.
Comparé
à d'autres personnes.
Ben, à d'autres qui sont, tu sais, j'ai des amis qui sont à l'école, tu sais, j'ai des amis qui s'en vont en voyage pendant 4 mois en Asie, puis je suis comme, waouh, mon Dieu, est-ce que je serais capable de faire ça? Puis là, c'est beaucoup de questions que je me pose à savoir, est-ce que je suis comme partie justement dans des rails de la vie, puis là, je pourrais jamais comme détourner de ces rails-là, puis c'est pas ça que je veux. Fait que je cherche en ce moment justement qu'est-ce que je peux faire. Je suis en train de regarder si je peux aller étudier ailleurs, parce que moi, je veux retourner à l'école. C'est vraiment quelque chose que j'ai un bac, mais j'aimerais ça avoir un deuxième niveau. C'est important pour moi, fait que autant pour me renouveler puis avoir d'autres connaissances, fait que je pense que c'est important ça aussi de pouvoir, du moins pour moi, de pouvoir me challenger puis de me sortir de cette routine là qui en est pas nécessairement une, mais qui en est une quand même, tu sais.
Ouais, ouais, ouais. Puis est-ce que justement ça t'arrive souvent de te comparer aux autres? C'est quelque chose qui est fréquent?
Ben oui, c'est sûr. Mais tu sais, en tant que fille, je pense que ça vient un peu avec, malheureusement, tu sais. Mm-hmm. Puis j'essaie vraiment de sortir de ça aussi. Moi, je me compare surtout à savoir, mon Dieu, j'en ai-tu fait assez? Puis souvent, la réponse est oui. Tu sais, mon chum, il me dit tout le temps, mais voyons, tu sais, comme à un moment donné, il faut que tu settle down puis que tu arrêtes de te poser la question. Tu sais, je pense que c'est bien de se remettre en question. Je pense que c'est mauvais de se comparer à d'autres parce que souvent, c'est pas positif. Quand je me compare à d'autres, j'essaie de le faire de façon où est-ce que, non pas que j'éprouve de la jalousie, mais plutôt l'envie de faire ça. Ouais, mon Dieu, ça me donne envie de faire ça. C'est ça exactement, des objectifs. Ça me donne des idées, tu sais. Mais je pense que la jalousie, c'est pas gagnant pour personne à aucun niveau, là.
Ben c'est ça, la différence entre être inspiré, ça donne envie, c'est positif, puis la jalousie, c'est plus rabaissant.
Exact. Mais
je pense que c'est une problématique aussi qu'on a tous avec les réseaux sociaux. Il y a des nouveaux mouvements qui disent que justement, faut être capable de genre unfollow des gens sur les réseaux sociaux, vraiment. Qu'il faut genre savoir prendre des breaks, parce que justement, notre génération, on est tellement sujet à la comparaison. À la comparaison tout le temps, genre sur Instagram, on voit des photos, puis tu sais, souvent la vie qu'on voit sur les réseaux, c'est pas toujours la réalité, justement.
Oui, c'est jamais la réalité, c'est toujours une mise en situation, tu sais. Puis oui, on éprouve, je pense, comme génération, beaucoup d'anxiété face aux réseaux sociaux. Je pense qu'il faut faire attention de ne pas les condamner non plus, parce que je pense que ça ouvre aussi la porte sur plein de belles affaires, mais effectivement... Par rapport à notre consommation, il faut être responsable. Il faut se dire, comme tu dis, ben il faut unfollow des gens. Il faut décider de ne pas aller sur notre téléphone quand on ne file pas bien parce qu'on sait que ça va juste nous rendre plus down de ne pas être je ne sais pas où, à je ne sais pas quel moment. Mais tu sais, je pense qu'effectivement, c'est une responsabilité qu'on a par rapport à nous-mêmes.
Mais ça, comme tu dis, c'est positif. Ça crée des réseaux, ça crée des liens, on découvre des choses incroyables.
Absolument.
Mais est-ce que justement, tu en as des modèles peut-être féminins qui t'inspirent en ce moment puis qui t'aident dans ton parcours?
Bien, c'est une bonne question. J'ai comme de la misère à avoir des idoles dans la vie.
Idoles, mais peut-être quelqu'un qui...
Ben, comme les gestionnaires.
Oui, c'est ça. Ben, exactement comme je disais tantôt, moi, c'est beaucoup des gens comme dans mon entourage. Tu sais, mes amis m'inspirent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve que c'est des filles qui sont super intelligentes, qui sont matures, qui prennent des bonnes décisions, puis m'entourer de ces filles-là, puis être célébrée avec ces filles-là, je trouve que c'est vraiment un honneur. d'autres personnes qui m'inspirent beaucoup, c'est les gestionnaires avec qui je travaille chez Léger. Tu sais, par exemple, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes chez Léger, plus que d'hommes, et surtout dans les postes de direction. Puis moi, ça me fait toujours plaisir de travailler avec elles, puis de voir comment elles évoluent, puis leur façon de justement d'être des gestionnaires. Fait que je les trouve vraiment, vraiment très, très inspirantes, oui.
Bien, c'est vrai que des fois, on n'a pas besoin de quelqu'un de connu. T'sais, non, c'est ça. Qu'il faut se rappeler aussi que, tu sais, juste nos amis, ils peuvent nous inspirer autant que quelqu'un qu'on voit à la télé ou
Et à la radio. Et on peut plus s'identifier aussi, c'est plus facile.
Oui, c'est ça.
S'identifier à quelqu'un qu'on connaît.
Oui.
Ouais. Puis, on se demandait aussi qu'est-ce que tu avais trouvé le plus difficile en tant que, justement, jeune femme dans un poste de direction.
C'est une bonne question. Je pense de pas me juger par rapport à ça, du fait que je pense que, tu sais, moi, ça m'est arrivé 1000 fois là, d'arriver autour d'une table puis de compter qu'il y a 10 hommes à côté de moi, tous 20 ans de plus que moi, puis me dire, mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici? Puis comme, ils vont-tu me trouver conne? Ils vont-tu trouver que j'ai pas ma place ici? Tu sais, vraiment, c'est cru comment je le dis, mais en même temps, c'est ça, c'est comme ça que je me sens. Quand... Fait que je pense que ça... Ce sentiment-là s'en va avec l'expérience, s'en va avec comme plus de confiance. Tu sais, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de faire sa place, là, je me répète un peu, mais je pense que c'est ça, puis d'avoir confiance en soi, puis de se dire que ben il y a une raison pourquoi est-ce qu'on est là. D'avoir des mentors un peu, ou du moins des gens auxquels on aspire, qui sont proches de nous, de voir que ça se peut, tu sais, d'avoir des gestionnaires féminines à nos côtés. Puis de ne pas avoir peur de s'imposer. Je peux-tu compter 2 petites anecdotes?
Bien sûr.
Je l'avais gardé pour vous. Qui me sont déjà arrivées. Parce que, puis je pense que l'autre chose qu'il ne faut pas avoir peur aussi de vivre en tant que, je pense, en tant que gestionnaire femme, c'est souvent qu'on nous reproche nos émotions. Puis moi, je suis full émotive. Puis je trouve que c'est important de les vivre. C'est important de pleurer. C'est important d'être outrée. C'est important de les vivre. Parce que souvent, c'est ça qui fait d'un bon leadership féminin, je pense. C'est d'avoir des émotions. C'est d'être ouverte. C'est d'être à l'écoute des autres. Je pense que c'est quelque chose qu'on attribue beaucoup, justement, au leadership féminin. Puis tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé de pleurer en sortant de rencontre parce que j'étais comme, oh mon Dieu, on m'a pas écoutée. Puis genre, je me suis sentie... pas respectée, je me sentis comme si j'étais pas intelligente, comme si j'avais pas ma place là. C'est important de l'évacuer puis de faire un retour là-dessus, tu sais, de pas laisser passer ça comme si c'était rien non plus. C'est important de prendre sa place puis d'avoir sa place autour de la table, hein, on dit souvent ça.
C'est vraiment un bon point. Même en santé mentale, si tu refoules trop tes émotions.
Oui, puis c'est important d'en parler. C'est vraiment important. Puis moi, je vais faire un devoir avec mon équipe qui, présentement, n'a que des filles, justement, d'être à l'écoute d'elles puis de savoir quand c'est trop, de savoir quand c'est passé puis d'avoir une relation, justement, vraiment dans l'écoute puis dans le respect plutôt que de juste comme de haut en bas en tant que gestionnaire. C'est pas du tout l'approche que je veux avoir, là, finalement.
Mais c'est tellement intéressant, je trouve, parce qu'on entend souvent ça, que quand les femmes sont comme plus émotives,
elles perdent leurs moyens.
Mais
c'est puis souvent, on dit genre, oh, qu'est-ce qu'elle a dans sa semaine, c'est pour ça qu'elle est en colère.
Mais tu sais, ça peut être un atout de justement vraiment être consciente de ses émotions, puis de dire
être
comme...
Être sensible, vraiment.
Puis même pour la masculinité toxique, de l'autre côté, si les femmes, elles montrent l'exemple en disant que c'est correct et que c'est OK d'avoir de l'émotion, puis de la montrer, après peut-être que les hommes aussi vont commencer à accepter de la montrer, même dans des domaines de gestion.
Absolument. Puis la sensibilité, c'est quelque chose de super important aussi en gestion. Quand tu as des gens autour de toi que tu gères, tu dois être sensible. Ben, c'est des êtres humains, c'est comme des petites bêtes, je veux dire, il faut les écouter aussi, là. Sinon, ben, ils ne resteront pas dans ton équipe, ils ne seront pas bien non plus, puis moi, ça ne me rend pas bien de savoir que les gens ne sont pas bien dans mon équipe, fait, c'est important d'avoir cette relation-là aussi, je pense, de confiance, d'écoute, de sensibilité avec les gens autour de nous avec qui on travaille.
Oui, une intelligence émotionnelle aussi.
Exactement.
Pas juste être bon dans
le doing, exactement, oui.
Mais je pense que les prochains gestionnaires, ils seront meilleurs là-dessus. Je ne sais pas, toi, si dans ta formation, on t'a montré un peu, mais nous, je sais, par exemple, ils poussent beaucoup sur ça, l'intelligence émotionnelle, puis ils responsabilisent vraiment les futurs gestionnaires en disant, vous allez avoir des vraies personnes avec des vraies émotions. Empathie, transparence, intelligence émotionnelle, c'est vraiment important parce que vous allez les briser, puis ils ne vont pas être performants, puis ça va être à votre désavantage et au leur. Donc, je trouve que c'est vraiment important ce que tu dis.
On a justement, t'en parlais tantôt, mais une étude chez Léger sur le bonheur au travail, à quel point c'est important et que si les gens ne sont pas heureux, ben ils vont partir. Puis ça fait partie de ça, de l'écoute, de savoir que leur supérieur l'écoute, est à leur écoute, qu'ils ont des conditions de travail qui sont agréables. Fait que c'est vraiment un tout.
Ouais.
Est-ce que tu avais une autre anecdote?
Je pense que oui, mais je pense que c'était pas mal ça. Mon autre anecdote qui m'est déjà arrivée récemment, en fait, c'est que j'allais dans une rencontre avec, quelqu'un de la direction, avec un homme de la direction plus âgé que moi, qui est quand même reconnu où est-ce qu'on allait dans la rencontre client, où est-ce qu'on allait. Puis moi, je l'accompagnais, ses clients ne me connaissaient pas nécessairement. J'allais là comme à titre d'aide, de conseillère un peu. Puis je me suis présentée à la secrétaire qui était au bureau parce que j'étais arrivée avant mon collègue. Puis après, mon collègue est arrivé, on s'est présenté. Puis quand elle a appelé, elle, ses clients, pour lui dire qu'on arrivait, elle a présenté comme « Ah, oh, monsieur, blablabla, bla, bla, s'en vient avec son assistante. » Et moi, je m'étais juste présentée comme « Ah, oh, je m'appelle Sarah Motet, puis je viens pour telle rencontre avec telle personne. » Mais j'avais jamais nommé, d'ailleurs, fait que je veux dire, j'avais jamais nommé que j'étais assistante, mais juste par le fait d'être jeune et une femme et en compagnie d'un homme qui était plus vieux que moi, on a associé que... T'sais, j'étais son assistante. Fait que j'ai trouvé ça un peu, justement, difficile. T'sais. Mm-hmm. Ça arrive constamment des erreurs comme ça de la sorte. Puis c'est important, justement, d'ouvrir nos horizons puis de se dire que comme, ben, les choses ont changé, justement. Puis, puis de ne pas prendre pour acquis certaines choses ou certaines situations.
C'est vrai. C'est comme les secrétaires. Souvent, on va se tourner vers la femme.
Oui, ben oui.
Est-ce que tu veux bien être la secrétaire de séance? Mais...
Tu peux le faire aussi. Mais exactement, tu peux prendre des notes aussi, puis ouais, ça fait partie de ouais, tout le monde. Ouais.
Pour finir, est-ce que tu as un conseil à donner à nos auditeurs et auditrices? En général?
Ben, j'ai comme beaucoup parlé de prendre sa place, puis je pense qu'il y a aussi d'un autre côté, puis ça c'est quelque chose que je réalise aussi encore une fois à tous les jours, puis que c'est pas encore acquis non plus de mon côté, qu'on n'est pas obligé d'être ambitieuse non plus, puis on n'est pas obligé de vouloir la lune, puis de vouloir être c'est meilleur vrai. Que tout le monde. On peut aussi être très bien dans comment est-ce qu'on est, de la façon qu'on est. Puis justement, on parlait de comparaison beaucoup. C'est pas parce que quelqu'un fait des choses à côté de toi, puis si toi, t'as pas envie de réaliser ce genre d'objectif-là, de les faire non plus. C'est comme important de se recentrer, je pense, sur qu'est-ce qu'on veut, d'aller à la vitesse qu'on a besoin. Puis tout ça est un beau mélange de santé mentale et de féminisme et de faire attention, tu sais, à soi. Mais effectivement, l'ambition, c'est pas parce que tu l'as pas que t'es pas bon puis que t'es pas destiné à un futur extraordinaire, là. Mm-hmm. Pas du tout. Il y a des gens qui veulent être performants, qui veulent être ambitieux. Il y a des gens qui sont performants ailleurs, que c'est pas le travail, justement, qui vont voyager, qui vont se développer ailleurs. Puis tout ça est équivalent, tu sais.
Mm-hmm. Je pense qu'il faut apprendre, justement, à se connaître soi-même puis voir qu'est-ce qu'on veut dans le dans notre future carrière.
Mm-hmm. Exact, oui.
On est tous uniques. Exact. Ben, merci beaucoup pour ta participation. Est-ce que...
Ça finit bien l'entrevue.
Ouais. Merci à vous de l'invitation.
Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Puis on te souhaite une bonne carrière, une bonne continuation, puis que tous tes souhaits se réalisent.
Merci d'avoir écouté notre deuxième podcast et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux.
Si le podcast vous plaît, c'est en vous abonnant et en laissant des commentaires que vous pouvez le soutenir. Merci pour tout votre soutien et vos encouragements, ça nous a vraiment fait chaud au cœur et on espère que ça va continuer.